Bonjour et bienvenue dans Catharsis, le podcast qui parle de cinéma avec émotion. Aujourd'hui, pour vous parler d'une émotion que vous avez déjà tous ressentie et que vous adorez tous, l'ennui, je reçois trois loustiques. Jasia.
Bonjour.
Agathe.
Bonjour.
Et Christopher.
Ouais.
Voilà, les loustiques sont au bout de leur vie.
Nul.
Mais l'ennui, qu'est-ce que c'est ? L'ennui est défini par le dictionnaire Larousse comme une lassitude morale, l'impression de vide engendrant la mélancolie, produite par le désœuvrement, le manque d'intérêt et la monotonie. Donc nous voyons ici toute la puissance de Larousse qui, avec une seule définition, nous donne envie d'en lire 6 nouvelles pour comprendre de quoi il s'agit. Démembrer, le fait d'enlever les membres. Membres ? Les choses que l'on enlève quand on se fait démembrer. Merci beaucoup. Oui, nous sommes dans l'ennui. Alors, pas encore la dépression, c'est vrai, c'est bientôt le cas, mais pour le moment, nous sommes toujours sur l'ennui. Et pour démarrer, nous allons entendre Christopher qui va nous parler de Paranormal Activity, qui est un vrai, mais quand même vraiment faux, documentaire d'Oren Peli, sorti en 2009, et qui est accessoirement le film américain le plus rentable de l'histoire.
Ouais, c'est ouf. Donc, ce film met en scène Cathy et Mika, qui sont un couple venant juste d'aménager, qui se retrouvent en proie à des manifestations surnaturelles et qui décident d'acheter une caméra pour tirer les choses au clair. Un début qui peut s'annoncer plutôt prometteur. Toujours est-il que ce film est fait en fan footage et principe de la vidéo retrouvée, donc normalement, qui est censé apporter du réalisme, ainsi de suite. C'est un principe qui est assez fan et c'est détracteur. Il y a un certain réalisme, l'identification au personnage est plutôt amplifiée et on peut donc s'immerger plus facilement dans le récit. Par contre, l'un des inconvénients, c'est qu'il faut que ça soit rythmé. Quoi. Donc, pour le coup, ben, faut que ça soit rythmé correctement, surtout. C'est d'autant plus vrai dans un film d'horreur ou d'action, parce qu'il doit jouer avec ce genre de contraintes pour ce format. Donc, pour y pallier, certains films alternent des scènes de vie avec des scènes qui font avancer l'intrigue, ce qui est plutôt logique. Sauf que dans PA, ben, on fait connaissance avec les protagonistes, on suit l'arrivée de l'élément perturbateur, les protagonistes remarquent que quelque chose ne tourne pas rond et cherchent à confirmer l'existence du mal. Puis, le build-up se basant sur l'action-réaction, on est censé faire, c'est censé faire office, le build-up est censé faire office jusqu'au dénouement en fait. Sauf que ça ne fonctionne pas et que peu de temps après le début du film, on se rend compte que le l'un des personnages principaux, donc Mika, décide d'être la personne la plus stupide du coin.
Oui, j'ai trouvé aussi.
Donc pour le coup, rendre les actions d'un personnage illogique pour faire avancer le scénario est un des gimmicks qu'on connaît le plus, c'est assez courant, c'est un cliché. Et s'il est bien fait, bah, en gros, ça passe puisque ça table sur le fait que tout le monde ne réagit pas forcément avec sang-froid en lâchant une punchline face à un danger imminent. Quoi.
Donc,
donc par exemple, voilà, c'est plutôt logique, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Ça rentre dans le domaine du concevable. Le problème, c'est que le type a une preuve d'une manifestation démoniaque, pas un esprit mais bien un démon, comme l'explique le médium consulté. Le médium lui conseille de ne pas essayer d'interagir ni de provoquer la présence, ben non. Mika, le bonhomme, il se claque une session Ouija et balancerait que taunt au démon.
Non mais Mika, c'est un juste, abruti.
T'as juste envie de le baffer.
Fascinant.
Et ben c'est ce genre de réaction qui provoque chez moi un désintéressement total au sort des personnages. Mais vraiment, à partir de ce genre de choses arrive, je me fous complètement de ce qui peut arriver après.
Donc, oui, en gros, c'est, il a bien cherché.
Oui,
bon,
oui,
tant
voilà, pis pour
quoi.
Sa gueule. Tant pis pour sa gueule.
C'est pas très sympa quand même.
Non, mais bon, on est dans l'ennui. C'est vrai qu'on pourrait même penser que c'est même pas de l'ennui que j'ai face à ce film, mais une sorte de frustration et un énervement. Mais c'est justement cet énervement qui me fait décrocher, qui me désintéresse complètement de ce qui peut arriver à ces personnages. Je me retrouve donc avec des manifestations. On se retrouve donc avec des manifestations qui vont crescendo, logique dans le déroulement, mais dont je me fous complètement à cause du manque d'intérêt que je porte à la survie des personnages. Je répète encore une fois, je le souligne, je le mets en gras, caplox.
Il y a pas une scène aussi à un moment où ils ont toute la preuve que ouais, il y a un démon, ils ont failli y passer et tout.
Ouais.
Et puis ils vont partir de la maison. Non, non,
oui.
C'est pas. Et, non, en fait, je vais rester.
C'est ça.
Ouais. Et l'autre mec fait ah d'accord.
Oui.
What the fuck.
Oui, là c'est logique que la fille dise qu'elle veut rester parce qu'à ce moment-là elle est possédée.
Ouais, mais l'autre
elle est influencée.
Quand même censé la sortir bordel.
Par contre, le Mika là qui fait oui, je suis le bonhomme, j'ai réglé le problème, machin chouette. Ah, tu veux rester? Il y a un démon. Ok.
Non, puis même tout son comportement, il a pas de sens parce que lui, il passe tout le film à, il commence à filmer.
Oui.
Coup, ça veut dire qu'il pense que ça existe vraiment.
Oui, mais il veut confirmer.
Sauf que il veut confirmer. Oui, mais le truc c'est que il sait qu'il y a vraiment des démons ou des fantômes ou je sais pas quoi.
Oui.
Et il décide d'aller provoquer les fantômes en
voilà.
Disant Ouija, ça n'a
oui.
Aucun putain
bonhomme.
De sens.
Mais si, ça permet de faire avancer l'intrigue. Enfin, j'ai dit, tu sais très bien comment ça marche.
Donc voilà, on se retrouve avec 3-4 scènes qui sont plutôt intéressantes. Mais malheureusement, je me suis pas mal ennuyé pendant le film. C'est ce que vous aviez dû comprendre dans ma description. J'apprécie néanmoins la jazzesse de la licence parce qu'il y a eu quand même 4 ou 5 films de cette saloperie. Et
c'est,
que...
On n'est pas Paranormal Activity 7 maintenant. Paranormal Activity.
Aucune idée, j'ai perdu le compte.
Il y a des spin-offs. Enfin, bah,
j'ai vu qu'il y a une version japonaise du truc que j'ai vu d'ailleurs.
Il y a Entities aussi, je crois.
Il y a un antépisode peut-être.
Qui est une sorte de spin-off ou une connerie comme ça.
Et puis le 3 il se passe dans le passé.
Avec une famille.
C'est ça, The Marconi il se passe dans le passé, ce qui. C'est un twist, dans une GZ, c'est plutôt intéressant.
Oui, mais le 3 se passe dans le passé, mais ils ont des caméras qui sont plus, beaucoup plus performantes.
Ah, et la qualité, c'est du 1080. C'est juste magnifique. C'est juste impressionnant.
En même temps, on est sur le fait qu'il y a un démon qui se balade à l'intérieur, qui marche dans de la farine. Je veux dire, tu peux pas invoquer le manque de réalisme pour la qualité des caméras.
Oui, mais c'est ça qui est pas logique, c'est que dans le 1, les caméras, elles sont un peu dégueu, alors que dans le 3, c'est censé se passer plus tard dans le...
Et c'est mieux filmé, c'est plus stable.
La qualité des caméras dans le 1, je crois que ça tient surtout au budget du film. Oui. Je crois que c'était 15K, 15 000.
Oui.
Ah oui, mais non, mais ça. C'est
un truc à la con, mais...
Enfin, c'est pas cohérent esthétiquement, quoi.
Oui.
Dans la diégèse du film.
Exactement.
Parce que limite, dans le 3, en fait, il y a la caméra, elle a un stabilisateur, elle a le net vision, ainsi de suite, de fuck. Toujours est-il que... Donc, je répète, en gros, la dégèse du film est plutôt intéressante puisqu'il s'agit de démons, c'est toujours intéressant. Enfin, à mon sens, c'est toujours intéressant d'avoir un univers sur lequel tu te poses des questions, tu te demandes à confronter la crédibilité de chaque événement. Et c'est ce genre d'élément qui, pour moi, peut sauver un film, même si on ne l'a pas forcément apprécié.
Après, et c'est là où c'est assez intéressant, c'est que le film a très, très, très bien marché.
Ouais, ouais.
Et il y a finalement ce caractère qu'on peut peut-être retrouver dans d'autres choses comme Harry Potter, c'est le fantastique proche. Je prends un univers très très proche de mon univers classique, donc là Paranormal Activity c'est même censé être justement
le principe du fan footage, c'est que ça soit vraiment
et voilà, j'inclus ces petits éléments qui de fantastique
dissonant, ouais, de fantastique.
On voit le succès d'Harry Potter, on voit le succès de Paranormal Activity, je sais pas s'il y a d'autres exemples de d'univers un peu du même type qui ont aussi
Cloverfield, hein. Le Orla de mon
Cloverfield, moi
Cloverfield
aussi.
Cloverfield, ouais. Buffy contre les vampires
en fan footage non mais
comment il s'appelle Blair
Witch. Oui, l'un des premiers, ouais. Effectivement.
J'ai pas vu Project Blair Witch. Il y a du fantastique dans Project Blair Witch.
C'est
sorcière, quoi.
Ça laisse les gens supposer qu'il y en a et en fait, il n'y en a pas.
Oui.
Vraiment.
Après, moi, j'ai lu un truc. Enfin, j'ai vu une film théorie, Matt Bat. Il a fait toute une théorie comme quoi, dans le projet Blair Witch, en fait, c'est pas des sorcières, c'est les deux mecs qui veulent assassiner la fille.
Absolument. Oui.
Et c'est hyper malin. Quand tu vois le film avec cet angle-là, ça change complètement le film et ça marche trop bien.
Ouais, ouais.
C'est un peu comme le Star Wars épisode 1, quand tu penses qu'en fait,
George
Arbing, c'est un maître site. Et tu regardes le film de cet angle-là, c'est hyper bien.
C'est très mal, ça aurait été énorme, justement.
C'est beaucoup mieux, en fait, d'ailleurs.
Donc, pour en revenir à nos moutons, pour finir, l'une des autres manières qu'il existe pour pallier le manque de rythme que j'ai vu dans un film qui s'appelle Rec, ce qui est aussi un fan footage espagnol et d'horreur, c'est qui suit une équipe télé qui se retrouve coincée dans un immeuble cerné par les autorités et dans lequel un incident étrange a été signalé. Eh bien, c'est un film qui se déroule en une succession de plans séquences, plus ou moins. Et c'est un parti pris qui à lui seul ajoute du dynamisme. Juste ça donne un intérêt évident au film, juste ça.
Il y a un aspect huis clos, en fait. Ils ne peuvent pas sortir, donc ils sont coincés dans l'immeuble.
Ça peut être un immeuble, c'est un huis clos.
Alors que justement, dans Paranormal Activity, comme tu disais,
ils sont chez eux, mais tu t'en fous.
Tu t'en fous, enfin...
De temps en temps, on les voit sortir, il n'y a pas de souci.
Les mecs prennent la caravane,
mais tu t'en fous. Et c'est juste aberrant parce qu'ils sont dans un immeuble.
C'est pas loin.
Et il y a une tension, c'est un huis clos, et tu es vraiment impliqué, en fait. Alors que franchement, malheureusement, Mika et l'autre là.
Puis en plus, le démon, il fait autant peur qu'un chat qui pousse des clés.
Ouais, quoi, ouais.
Attention, intervention du public.
Je suis désolée, je suis dans le public. Bonjour, je suis un peu novice dans les podcasts. Non, je présente. Non,
mais moi,
j'ai eu peur.
Dans quoi ? Dans quoi ?
J'ai tellement peur dans Paranormal Activity.
Ah bon ?
Le drap, la porte, machin, chouette, sérieusement.
Il y a deux publics pour ce film. Il y a ceux qui sont en stress pendant tout le film parce qu'ils s'attendent à ce que quelque chose va leur tomber dessus. Donc t'attends le jumpscare, tu sais qu'il va arriver, du coup tu es toujours
en tension.
Un peu le bon et le mauvais public.
Non, c'est pas le bon public, c'est juste à deux approches différentes. Et t'as celui qui juste s'ennuie, en fait. Ouais,
non,
pas grand chose.
Quoique je le comprends. Parce que
quand le mec est dans la piscine, il fait un doigt d'honneur, je suis en mode ouais, bon, je regarde ma montre, ok.
Non, je le comprends parce que, comme je dis au départ, le fait de vouloir créer un rythme dans un film, ainsi de suite, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un build-up, effectivement. Il y a des petites interventions de l'esprit, donc une clé par-ci qui a bougé, la porte qui bouge, le drap qui est tiré, ok. Au fur et à mesure, ça augmente. C'est tout à fait compréhensible, c'est logique et c'est censé faire l'affaire. Le problème, c'est que malheureusement, il faut être impliqué dans le truc et moi, je l'ai pas été. En fait, c'est pour ça.
Que les personnages sont débiles et ça peut te sortir. Mais moi, j'étais déjà tellement en stress en fait.
Dans l'appréhension, dans l'anticipation.
Exactement, et aussi dans le fait que effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on voit pas et ça, c'est très intelligent dans les films d'horreur en général. Qu'on voit pas, qu'on entend très loin, parce que finalement la caméra elle est un peu pourrie, quand ils dorment dans leur chambre on entend des bruits dans le salon, à l'extérieur, et je me retrouve en fait petite, et même encore actuellement en fait, j'entends un craquement dans la pièce d'à côté alors que je vis dans 30 mètres carrés, je commence à m'imaginer les trois quarts des monstres de la planète qui sont dans mon appart, des tueurs de tous les côtés et tout, et en fait pendant tout le film j'ai passé mon temps à me demander mais comment ils font pour dormir dans cette maison, je serais partie en courant genre à la première minute.
Exact. Mais je crois qu'ils essaient de. Je crois qu'il y a une autre fois où ils partent et après ils reviennent, pas quoi, ou c'est justement le monde dont tu as parlé tout à l'heure.
Je sais pas, mais je pense qu'à nouveau, c'est une question culturelle aux US avec les dettes que tu te tapes pour pouvoir acheter ta maison. Tu pars pas en fait.
Ouais, mais par contre, ils ont plutôt l'air d'avoir de la thune parce que là, au début du film, la meuf se pointe avec un cabriolet blanc.
Ouais, puis
après, ils ont une société de crédit, donc ça peut être indien.
Mais le mec, il achète la caméra, puis après, il achète un logiciel de montage. Enfin, il y a plein de trucs.
Peut-être qu'il ne faut pas trop s'intéresser à la cohérence globale.
Peut-être.
Je ne sais pas.
Donc voilà, je me suis ennuyé pendant le film. Il y a des choses que j'apprécie, d'autres que j'apprécie pas, mais malheureusement, je me suis ennuyé.
Et juste pour savoir, qu'est-ce que t'as ressenti? Enfin, en gros, t'as regardé quand même le film en entier?
Oui, j'ai même été voir. J'en ai vu 4. J'ai vu 4 Paranormal Activity.
Ah, mais t'aimes ça, faire chier.
J'ai dit que j'appréciais la genèse du truc, donc je me suis intéressé à la suite. J'ai même vu le remake, c'est pas vraiment un remake, mais le pendant en japonais. C'est vraiment Paranormal Activity, mais sous-titré Tokyo. Il y avait des choses beaucoup plus intéressantes dans celui-ci, d'ailleurs, que dans l'américain. C'est mon avis.
Puis aussi Market One.
The Marked One, c'est le troisième, je crois.
Non, le troisième, c'est Les Sorcières.
Peu importe.
Et les 2, 3, 4, du coup, ils valent le coup par rapport au 1, c'est...
Au niveau de l'histoire et du déroulement, ouais.
De l'intérêt général.
Ben, je préfère regarder ceux-là que le premier.
S'il y en a un, allez voir sur les 4 premiers.
Le 2 se passe en même temps que le premier.
Oui.
Mais chez la sœur.
Chez la sœur, ouais.
Vraiment de famille pourrie. Hein.
Bah oui. Démon, en fait. Elles sont exactes. Dans leur enfance, elles ont été hantées. En gros, t'apprends que leurs parents ou je sais pas quoi, les ont vendu. Pas qu'elles les ont vendues, mais ils ont vendu leur âme, je sais pas quoi. Mm-hmm. Donc un démon est censé venir posséder je sais pas quoi. Enfin bref.
J'ai pas encore vu des âmes sur le dark web.
Il y a des trucs avec des sorcières, je sais pas quoi. Donc.
Et le premier bébé masculin, il est censé, je sais pas, être sacrifié un truc comme ça.
Ouais, il y a des trucs qui. Ouais, voilà.
Ça vaut bien le 7ème fils. Il y a un film qui s'appelle 7ème fils.
Oui, qui est tiré d'un livre avec.
Moi c'était une référence à Pratchett.
Ah ouais.
Donc.
C'est le 8ème si c'était Pratchett.
C'est vrai.
C'est lui.
Je pense que t'as vu quoi. C'est un dipiti du truc quoi.
Et donc on enchaîne.
Oui, s'il vous plaît.
On enchaîne avec Jazia qui va nous parler de Strangers in Paradise, un film de Jim Jarmusch sorti en 1984.
Yeah.
Merci Jazia. Et nous allons enchaîner avec.
I'm happy.
Alors, Strangers in Paradise, je vais un peu vous contextualiser mon expérience autour de ce film. L'été à Paris, il y a les séances en plein air au parc de la Villette. Et j'étais avec notre grand ami Kim.
Ah,
Kim! Gzo, Kim.
Et voilà. Et on est parti aller voir ce film en pensant qu'on allait passer un bon moment parce que Jarmusch. Moi, j'en avais pas vu beaucoup. J'avais juste vu. Only God Forgive. Only Lover Left Alive.
Très bien.
C'est pas du tout la même chose. Mais voilà, c'est le seul. Et j'adore vraiment ce film, il est génial. Du coup, je pensais que ça allait être un film un peu dans ce genre-là. Voilà. Et là, j'ai déchanté, mais tellement, tellement, tellement vite. Alors, je vais vous faire un petit résumé du film. Je vais vous raconter tout le film parce que, voilà. Je pense que...
Sans divulgachage, quand même.
Qu'est-ce qu'il y a à divulgacher?
Je sais pas.
Je suis pas sûre, en fait, que le divulgachage soit vraiment une notion dans ce film. Donc, en gros, ça raconte l'histoire de Bella Molnar qui se fait appeler Willy. C'est un Hongrois qui habite la banlieue de New York depuis une dizaine d'années. Et il renie ses origines. Il ne dit pas qu'il est Hongrois, etc. Et un jour, il est contraint d'héberger sa cousine Eva, qui est elle-même hongroise, et qui va squatter chez lui pendant 10 jours avant d'aller rejoindre sa tante à Cleveland. Parce que sa tante est malade et elle peut y aller que quand sa tante ira mieux. Et du coup, la présence d'Eva l'agace, parce que ça lui rappelle ce qu'il est et lui, là, il est vraiment en rejet de toutes ses origines. Du coup, bah, il va être en la présence d'Eva, il va être souvent très silencieux et l'ambiance entre eux va être extrêmement pesante. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ils mangent, vous savez, les plats déjà préparés, les petites barquettes là où il y a tout dans un petit coin, les haricots, tout ça.
Mac and cheese.
Et tu les vois manger ces plats-là pendant 5 minutes en silence.
C'est voilà. Pas du cinéma français, ça?
Maintenant, c'est du cinéma américain.
Tu veux dire que la scène dure vraiment 5 minutes où tu les regardes manger?
Oui, et regarder la télé.
Pour bien que tu sentes l'angoisse et le moment tortue.
Est-ce qu'il y a un drap qui bouge tout seul dans la pièce ou non?
Malheureusement, non, ça aurait été tellement bien.
Ça aurait rajouté de l'intérêt au film, c'est pas la même chose.
Christopher, tu viens de te faire battre dans le niveau d'ennui.
Ah ouais, là je.
Et du coup, Willy lui interdit de sortir. Elle est coincée à la maison tout le temps. Et la seule autre personne à part Willy avec qui elle va avoir des liens sociaux, c'est son pote Eddie. Non. qui lui rend et qui semble apprécier la jeune fille. Et en fait, le film est construit en trois étapes. Donc ça, c'était l'étape 1. Du coup, dans l'étape 2, ça se passe un an plus tard. Et pour échapper à l'ennui, en fait, Willy et Eddie décident de retrouver Eva à Cleveland. Parce que vraiment, ils se font chier, tu vois. Et
bon,
c'est
le film
région...
est cohérent.
Hein. Ouais. Ah oui, bah t'inquiète pas. Hein. Et c'est une région où il fait froid et il n'y a rien à faire. Et ils s'ennuient tellement qu'ils proposent à Eva de partir en Floride, histoire de voir un peu les États-Unis et de faire quelque chose. Et du coup, la troisième partie du film, ils sont en Floride. Ils sont presque arrivés, sauf que bah, ils ont des problèmes d'argent. Et ils commencent encore à se faire chier. Mais ils sont pas encore arrivés en Floride, ils sont sur la route. Et en gros, tout le monde se fait chier de son côté. Du coup, tout le monde part de son côté. Et quand ils reviennent, Eva n'est plus dans le motel. Ils sont là, oh non, Eva, elle est rentrée en Hongrie.
Il y a plus de choses à faire là-bas.
Du coup, ils décident de partir. Et quand Eva, elle revient, il n'y a plus personne.
What?
Du coup, ils l'ont abandonnée. Et tout le monde se retrouve tout seul. Et
fin.
Du coup, bah, parfois... à vouloir se rejoindre, on se perd.
Waouh.
Moi, j'adore la déduction.
Cookie Fortune.
C'est... Sachant qu'elle a renié ses origines. Quoi. T'as pas de... Non, pas elle. C'est juste Willy qui a renié ses origines. Du coup, pendant le tournage du film...
On est d'accord que c'est la fin du film, ça.
Oui, c'est la fin du film.
Ok, je précise.
Vous sentez comment on était bien avec Kim à ce moment-là.
Et donc, Jazia, quel est le message du film?
L'ennui.
Merci, Jazia.
On se perd, on se retrouve, on va en Hongrie.
Et du coup, Jim Jarmusch dit que pendant le tournage de Stranger Than Paradise, une personne qui faisait pas partie de l'équipe est venue le voir et leur a demandé bah, quel genre de film vous faites. Et du coup, il avait envie de lui dire enfin, c'est un film d'humour noir, quasi néo-réaliste.
Wow.
Et en fait, non, parce qu'il a marmonné quelque chose autour de l'austérité des immigrants aux États-Unis.
L'austérité du scénario.
Et il s'est rendu compte qu'aucune de ses réponses n'était bonne. Ah. Et au final, il lui dit que c'est pas un film où on peut dire ce qui se passe et de quoi ça parle. C'est un peu plus compliqué que ça. Il voulait un film très réaliste au niveau du jeu des acteurs, des lieux de tournage, sans trop attirer l'attention sur le fait que le récit se déroule durant le présent. Est-ce que vous avez baillé pendant mon résumé de ce qu'il pense du film?
J'ai décroché.
C'est un film sur ce qui ne se passe pas et ce qui ne se dit pas.
Bah en fait, c'est un film où tu te fais chier.
C'est un peu un film de Dominique.
Emma baille dans le public.
Genre, tu vois ce qui se passe à l'écran, mais tu vois aussi ce qui ne se passe pas à l'écran.
C'est beau.
Je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir dessus. Non.
Si Willy avait gagné de l'argent, beaucoup d'argent, on aurait presque pu penser que c'était un préquel à The Room avec Tommy Wiseau qui renie ses origines, qui s'ennuie, qui voyage. Qui va en Floride, et après descend à Nouvelle-Orléans.
Non, qui essaye d'aller en Floride. Il n'y arrive pas.
You are tearing me apart, Lisa!
Ah oui, j'ai oublié ce trait de... J'ai oublié qu'ils n'avaient pas réussi à aller en Floride.
Ah bah non,
j'ai oublié le scénario
pas.
Déjà.
Ils arrivent à rien.
Ils arrivent à se perdre.
Oui, bah oui, ça c'est pas très compliqué. Ouais.
Donc, Jazia, recommandes-tu ce film?
Non mais attendez!
Et c'est pas fini!
Non, ça ira, c'est...
Non mais alors du coup, en fait... Tout n'est pas jeté dans le film, je suis peut-être un peu dur. Parce que bon, le cadre est quand même intéressant, c'est des petites scénettes peintes sans rire, on dirait. Hein puis bon, en gros, ça se veut un peu film underground new-yorkais de l'époque, sauf que t'as aussi toute une esthétique de l'Europe de l'Est de la même époque. Donc bon, entre la nouvelle vague tchèque et la nouvelle vague américaine. Ah, vous êtes content,
ouais.
Je sens que...
Je déteste la nouvelle vague.
Et pas celle-là, c'est l'autre.
Vous étiez pas hongrois?
Oui, mais en gros, dans l'esthétique, je veux dire.
Très bien.
Pas dans le...
Jean-Michel, je ne connais rien au cinéma.
Et enfin, voilà. Donc, l'Amérique que traversent les trois personnages, pour moi, c'est une sorte de purgatoire. Voilà, il faut que j'essaye de trouver des sens à ce que je vois.
En tout cas, c'est une
que
purge, a priori.
La notion de paradis, donc le purgatoire, le paradis...
Voilà,
ouais,
merci. D'accord. Quelqu'un qui suit. Et voilà, c'est un drôle de purgatoire où en gros un purgatoire vide où il y a rien ni personne, il y a rien à faire. Et surtout quand on le mesure à notre réalité à nous aujourd'hui, parce qu'il y a du coup c'était quoi, il y a 25 ans, un quart de siècle.
Non, même pire, 85.
Ouais.
Bah c'était il y a
33 ans.
Il y a 33 ans. Du coup il y a 33 ans. Bah, du coup, il n'y avait pas internet, on n'avait pas de mobile, et du coup, nous on est toujours dans le. Quand, tu vois, aujourd'hui, quand tu t'ennuies, tu sors ton téléphone, tu trouves un moyen de t'occuper quand même.
Quelle triste époque!
On vit dans un monde où l'ennui, c'est. Je dirais pas que c'est rare, on s'ennuie.
C'est une ressource de
autrement.
Luxe.
mais
c'est même pas, c'est pas le même type d'ennui.
Voilà, mais là c'est un ennui vide. Tu vois, il y en a pas un pour lire un livre quand ils, enfin, ils, en fait, ils ont aucune action pour pallier à leur ennui. Et les seules fois où ils essayent, c'est quand ils partent en Floride ou c'est quand ils partent à Cleveland. Donc au final,
ils s'ennuient encore.
Ils s'enfoncent dans leur ennui. Je sais que j'ai dit ennui à peu près 40 fois depuis le début de
c'est au cas où vous n'aurez pas compris que cette chronique, ce podcast, cette émission, cet épisode est sur...
l'ennui.
4.
Et du coup, ma grande question, l'interrogation que j'ai eue, peut-être pas juste après le film, mais en y repensant, c'est est-ce qu'un film qui est très bon pour communiquer une émotion, ici l'ennui, au spectateur, est un bon film? Parce que c'est un film sur l'ennui qui communique de l'ennui. Est-ce que du coup, est-ce que le film a fait son travail?
Apparemment oui.
Oui.
Mais est-ce que en tant que divertissement, le cinéma c'est quand même aussi c'est de l'art, c'est du divertissement aussi.
Oui.
Du coup, un divertissement qui t'ennuie, c'est pas complètement, il y a un truc qui va pas.
L'oxymore.
C'est une oxymore, effectivement.
Après, tu peux être une œuvre d'art sans être un divertissement.
Oui, mais du coup, pour moi, le cinéma ça doit souvent quand même allier les deux, sinon ça marche pas.
Bah, ça dépend ce que tu recherches. Souvent, effectivement, ce qui est produit dans le cinéma est divertissant, mais c'est pas pour ça que ça doit être une contrainte, une obligation à ce que tous les éléments de cinématographie qui sont produits soient des divertissements.
Mais est-ce que t'es obligé aussi de... Est-ce que même si c'est une œuvre d'art, même si on part du principe que c'est une œuvre d'art, est-ce qu'elle est censée nous faire ressentir ce qu'elle dénonce ou ce dont elle parle? C'est pas forcément obligatoire non plus.
Parce qu'un film qui t'ennuie, c'est quand même violent. Hein. Ouais. T'es coincé dans une salle pendant là 1h24, je crois, 1h25.
Heureusement, de notre temps, les échevaux sont plus là et tu peux sortir des salles sans te faire poursuivre avec des pics et des fourches.
Mais moi, j'aime pas sortir de la salle. Moi,
là, je cherche sur internet des critiques positives.
Moi, ça me fait penser au dernier film de Abdelhachiche Kechiche qui a fait polémique à Cannes parce que, en fait, il traite de la Back to My Love partie 2. En fait, il traite de la fin du désir et en fait, du dégoût, on va dire, de la sexualité, etc. Et en fait, il le montre comme ça, c'est-à-dire il veut dégoûter les spectateurs de la sexualité. Et le film dure 3 heures, je crois, avec des plans de sexualité extrêmement longs, extrêmement gênants. Et il y a des gens qui sont partis au milieu du film parce que ça les dégoûtait. Et en fait, c'est l'effet qu'il veut produire. Et je trouve ça un peu bête de justifier ça comme ça, en mode, bah en fait, je veux dégoûter les gens de mon film. Enfin, je trouve ça un peu contre...
C'est trop facile. Non, c'est pas ça, c'est presque trop facile, en fait.
Ouais, c'est trop facile. Bah, c'est pareil pour l'ennui, quoi. C'est trop facile d'ennuyer quelqu'un.
Bah, pour le coup, c'est vraiment une émotion. C'est pas la plus dure à produire, quoi, l'ennui. Mais après, là, c'est un ennui violent.
Mais souvenez-moi d'une époque.
Comme quoi, c'est une question de point de vue. Hein. Alors, je lis la critique. Deux garçons, une fille, deux parties. Pour une expérience cinématographique unique et revigorante.
Il est en 3 parties, le film, déjà.
Ouais, déjà.
Revigorante, c'est un problème.
Explique, ouais. Ça explique, le mec n'a vu que 2 parties. C'est pour ça. Hein.
Et le mec dit la force de Strangers and Paradise. Et celle de se libérer de toute contrainte narrative tout en étant d'une grande cohérence. Si le film est constamment imprévisible, il met en scène des associations d'images et d'idées aussi fines que surprenantes. Le défi relevé est donc de créer une histoire constamment évolutive et en même temps de jouer sur des motifs de répétition.
Oui, je crois que cet article est signé de Jean-Michel Jarmusch. C'est pas son petit neveu.
Jean-Michel Jarmusch. Alain Cognito.
JMJ qu'on l'appelle.
Drôle, émouvant et surtout libre, fini par bouleverser dans ses dernières minutes, remarquablement pensé. Ouais, un film magistral.
Il y a des gens qui adorent la nouvelle vague. Hein.
Bah ouais, non, c'est ça.
Et il y a des gens bien qui adorent la nouvelle vague.
Mais du coup, c'est un film en noir et blanc, avec des plans fixes, qui est jamais bavard, avec de belles images et des acteurs sobres. On s'ennuie au début, au milieu et à la fin. Mais c'est aussi un film sur l'impossibilité de communiquer, le désœuvrement et la recherche d'un avenir sans vraiment le chercher. Et en fait, tout du long, t'espères que le film il finisse par démarrer. T'y crois, hein? Tu dis, ah ouais, ils partent à Cleveland, il va se passer quelque chose. Ah ouais, ils partent en Floride, il va se passer quelque chose.
Et à la fin, t'es contente qu'il ait commencé à s'arrêter, en fait.
Ah ouais, bah oui.
C'est quoi le mot? C'est anticlimactique, vraiment... je sais pas quoi.
C'est bon.
En anglais?
Tu sais, moi, changement climatique, je connais rien.
D'accord.
Non, j'allais dire, ouais, non, mais j'ai même. Là, je tombe sur un autre truc. Si vous voulez passer un bon moment et garder le sourire aux lèvres à la fin du film, n'hésitez pas. On parle bien de Strangers in Paradise.
T'es sûr tu parles pas de Stranger Things?
Parce que vraiment, je pense que j'ai pas vu le même film que ces personnes. Oui. Je pense pas.
Ah, certainement le meilleur film de Jim Jarmusch.
À l'époque.
Vas-y Emma, fais péter la question.
La mise en scène est captivante, composée de plans séquences.
Question du public.
Agathe ne veut pas que tu poses la question.
Ah, excusez-moi.
Je la poserai quand même.
Je comprends pas le titre en fait.
Stranger in Paradise.
Non,
Stranger in Paradise. Donc plus étrange que le paradis. Plus étrange que le paradis.
Oui, mais je comprends pas du coup le rapport.
Du coup, c'est pour ça que je le dis que c'est un purgatoire.
Habile.
Parce que si c'est pas le paradis, c'est plus bizarre que le paradis.
C'est le purgatoire.
Ça doit être le purgatoire.
Ah.
Mais je sais pas si c'est ça.
Est-ce
le...
que c'est une expression ou un truc?
Aussi. Aussi.
Mais il est bizarre le titre. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Et du coup.
Je pense que c'est un jeu de mots parce qu'il y a une chanson de Frank Sinatra, je crois que c'est Stranger in Paradise ou Stranger in the Night, un truc comme ça.
Eh bien, pour conclure, aujourd'hui, on erre à travers des paysages sans charme, avec des personnages qui n'ont rien d'attachant, et on attend désespérément que quelque chose arrive, en vain.
Très bien, je vais donc me remotiver et me réveiller pour lancer la troisième chronique de cet épisode avec Agathe qui va nous parler d'Invasion, un film beaucoup plus récent puisqu'il date de 2017 et qu'il a été réalisé par Kurosawa, du coup Kyoshi Kurosawa, parce que l'autre ça serait un peu plus difficile pour Akira.
Oh mon dieu, je savais pas que tu parlais de ce film.
Oui, parce que vous aussi auditeur, il vous arrivait la même aventure, mes aventures que moi. Vous aussi, vous avez suivi un ami dans une salle obscure avec une confiance aveugle sur le film que vous alliez voir tous les deux.
C'est moi l'ami.
Ouais, elle est à côté. Vous aviez comme moi une vague idée du film et comme moi, eh bien, vous vous êtes fait chier.
Et là, c'est le drame.
Et heureusement que l'on ne peut pas mourir d'ennui, sinon le cinéma serait interdit. Cet ami, présent dans l'assemblée,
c'est moi
Jasia représente, m'avait parlé avec enthousiasme d'un film japonais. M'ayant fait découvrir des pépites cinématographiques, j'ai pas douté un seul moment que je passerais à... Ouais, que je... Voilà, que je, ce serait une des... Oui.
It's a trap!
It's a trap!
Ah mais carrément, mais tellement, je suis désolée.
J'accepte tes excuses. Cependant, l'affiche du film aurait dû m'avertir. Un titre agressif avec une affiche passive. Un titre agressif, donc Invasion! Et l'affiche représente juste trois personnages prenant une pose romantique, regardant dans le vague, avec des nuages. J'ai commencé à me dire... Et ouais, c'était 2h20 que j'ai bien senti passer.
Puis c'est long, 2h20.
Ouais. Mais tu sais, il existe des films de 3h et plus que t'as envie de revoir ou de conseiller. Donc c'est peut-être pas la durée en tant que telle du film. Je pense, même si le film aurait duré 1h30, j'aurais été pas dans le même état, en fait, je pense. Alors, levons le voile sur ma séance d'invasion de Kiyoshi Kurosawa. Sortie en 2017 au Pays du Soleil Levant et en septembre 2018 au Pays du Camembert. Ça pouvait peut-être être un signe annonciateur qu'il y ait une telle différence de sortie. En fait, je peux même pas vous raconter le pitch de l'histoire, étant donné que je me souviens surtout de ce qui se passait dans la salle où j'étais, dans la salle de cinéma. En fait, l'un de mes passe-temps favoris pendant le film, c'était de suivre l'affalement progressif d'un spectateur, en fait, et de surveiller le combat d'un autre contre le sommeil. En fait, je regardais les spectateurs qui clignaient des yeux. Ça m'empêchait moi-même de m'endormir. J'ai même compté aussi tous les spectateurs qui sont sortis de la salle. 1, 2, 3, 3 et demi, il y avait une petite hésitation, 4, 5, 6, ouais, et puis à un moment je crois que j'ai arrêté de compter. Pourquoi suis-je restée moi-même? C'est une question que je me pose tout le temps. En fait, en tant que cinéphile, je me dis, par respect pour le film, je vais m'infliger ça, tu vois. Puis par respect pour mon ami, parce que, tu sais, tu te dis, ça se trouve, elle aime ça.
Elle aime, ça fait mal. En fait.
T'as regardé tout le public, t'as regardé la réaction du public, pas forcément la personne qui t'a embringué dans le truc, quoi.
Jasia avait des grands yeux bien ouverts, ouais, des étoiles dedans. C'est fini, incroyable.
Et tu te dis, bon, je vais pas partir parce que sinon elle va sentir obligée de partir. Alors, peut-être qu'elle est à fond dans le film et tout. Tu peut-être en fait à la fin.
Nope.
Là, tu as regardé sur ta gauche et tu l'as vu en train de jouer avec une Game Boy. Et tu as douté.
Non, je la regardais pas du coup. J'hésitais de lui montrer que je m'en faisais chier en fait. Je voulais pas lui montrer. Donc c'est vrai que j'ai évité de croiser son regard. Et aussi en fait, je suis restée parce que t'as toujours, quand tu te fais chier devant un film, t'as toujours un impossible espoir que le film d'un coup se décante. Parce que tu te dis. Il y a des films, tu vois, ça démarre un petit peu en lenteur et tout, mais d'un moment, t'as quand même un élément qui fait que bam, en fait, toute cette lenteur était justifiée et qu'à la fin, t'as vraiment un rythme beaucoup plus accéléré et qui t'amène un dénouement et à une explosion finale.
Non.
Là, non. Enfin, j'ai... Même si ça parlait d'une invasion extraterrestre internée par une tête à claque et des protagonistes au charisme d'une huître, non, le film ne m'a jamais captivée. Et en fait, je me pose la question, peut-être Jaza va m'aider à répondre, est-ce que c'est le fait que j'étais une fille, enfin, je sais pas, peut-être parce que je suis européenne, française, et que du coup, la mise en scène japonaise m'a pas touchée, ou est-ce que c'est vraiment un film mauvais?
Non, c'était chiant.
Ouais.
Je pense que c'était chiant dans toutes les langues, pour tout le monde, dans tous les pays. Alors, par contre, j'aimerais bien me défendre.
Avant ça, Jasia, est-ce que tu pourrais juste donner un peu le pitch du film? Il y a une invasion extraterrestre.
Oui, parce que je m'en souviens pas.
Alors, en gros, ça se passe au Japon en 2017, et l'héroïne se rend compte que les gens autour d'elle se comportent bizarrement, et particulièrement son mari. Enfin, les gens sont bizarres. Et en gros, elle est la seule à s'en rendre compte. Et en gros, elle réalise au fur et à mesure que les humains sont en train de perdre leurs émotions. Et c'est ça le film, en fait.
Et le pitch a l'air bien.
Bah oui.
C'est terrible pour Catharsis, en fait.
C'est ça, hein, ils perdent leurs émotions.
Ce monde serait horrible. Nous pourrions exister.
C'est quoi le titre précis du film ?
Invasion. Non, mais... Et le titre japonais, t'as pas envie que je le lise.
Non, c'est bon.
Allez.
Non, non, non. J'ai déjà massacré assez de noms et de...
Mais ouais, non, mais le concept du film est bien. D'ailleurs, en fait, ils parlent pas d'émotions, ils perdent leur concept. Par exemple, je vais juste dire le début, t'as un extraterrestre qui vole le concept de paternité à une jeune femme, et du coup, la jeune femme ne reconnaît plus son père. Qu'elle n'a plus le... elle a plus le code culturel, donc pour elle, c'est un étranger, son père, en fait. Et du coup, elle a peur de vivre avec lui, etc. Excuse-moi.
Non, 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 c'est juste que ça me fait penser, je viens de vérifier là, ça me faisait penser à un film avec Daniel Craig et Nicole Kidman qui s'appelle aussi Invasion.
Oui.
Et ben, il y a des sortes d'extraterrestres qui sont en train de douter dans tous les trucs. Je sais plus exactement.
C'est pas un remake de l'invasion des profanateurs de sépulture ?
Je sais pas, justement.
Je crois
que c'est pas
le troisième remake de cette série de films.
Peut-être.
Les gens sont possédés par un truc maladie, machin, un genre de virus, et en fait, ils viennent tous connectés comme une fourmilière. Et donc, ils agissent tous ensemble.
Alors,
sauf que là, dans l'invasion, c'est vraiment des extraterrestres, je crois.
Mais ils vomissent sur les gens, non, pour les contaminer ?
Je sais plus.
Putain, ça m'a marqué. Ce qui établit notablement le caractère extraterrestre.
Ouais. Vomissent
sur les gens, c'est un merde.
Un classique.
Non, j'ai vomi sur les gens de quelqu'un.
On est tellement contents de connaître ce
mais
détail.
Mais c'est pas plutôt Prince of Darkness que dont tu parles ?
Non, c'est avec Nicole Kidman.
D'accord.
Et Daniel Craig, ouais.
Mais je crois que c'est un remake de l'invasion des...
Des profanateurs,
profanateurs de sépulture. Que quelqu'un check. Alors, du coup, j'aimerais bien me défendre, parce que là-bas, c'est ça que j'étais...
La parole est à la défense.
Voilà. La raison pour laquelle je t'ai vendu le film, c'est parce que j'étais allée voir 2 ans plus tôt son film qui s'appelle Real, et que j'avais adoré, et c'est... Mais en fait, non, c'était l'esthétique du film, parce qu'il a filmé une partie de Real dans un parc d'attractions abandonné après Fukushima.
Mmh. Ah.
Et ça donnait vraiment une... Puis il y avait une histoire de monstre. Et pareil, c'était encore un couple qui pouvait plus communiquer. Alors j'ai oublié pourquoi ils pouvaient plus communiquer. Mais non, mais en gros, je crois qu'il y a une histoire de mort, et il veut la ramener, et ils arrivent plus à communiquer. Et puis, bref. Mais en tout cas, il était très bien ce film. Sauf que j'aurais dû... Je me défends et en même temps, je vais creuser ma propre tombe parce que j'étais allée voir Le Secret de la Chambre Noire. Et dans Le Secret de la Chambre Noire, qui est en fait un film réalisé par ce monsieur, avec des acteurs français en France.
Waouh.
Il y a Taha Rahim et sûrement d'autres gens dedans. Et je m'étais fait chier à boire.
Non, mais
du coup,
en fait, elle voulait juste pas se faire chier toute seule.
Voilà.
Non, mais en fait, je me suis dit peut-être que ce sera comme ça. Il refait un film japonais, ça sera comme Real, ça sera bien.
Bah,
et je crois que Creepy aussi est bien pour ces films.
Ouais.
Mais je suis désolée, j'avais pas prévu que ça se passe comme ça.
Mais je suis contente que t'aies ressenti la même chose que moi, parce que si tu l'avais aimé, je me serais dit, mais what ?
Qu'est-ce que j'ai loupé ? Non, moi aussi, je voyais le mec s'enfoncer dans son siège. Et j'ai vu un couple avoir un débat, mais vous savez, juste avec les yeux, enfin avec leur gestuelle.
On y va, on reste, on y va.
C'est nul.
On y va, c'est nul, hein. Mais
oui. Il
y avait un truc dans leur gestuelle qui faisait que.
On passe au front prix.
Ils étaient en train de se mettre
d'accord. C'est pas mal, je crois qu'il n'y a plus de papier toilette.
De sortir de la salle ou pas.
J'ai vu même genre de choses dans ma séance de The American.
Ah oui,
c'était pareil, les gens s'affaissaient, se barraient, se demandaient. On a même eu une sorte de fou rire collectif parce qu'on les quelques personnes qui restaient, c'est-à-dire 5 ou 7 personnes, ben on se regardait, on se demandait qu'est-ce qu'on fout encore là. Ben,
pourquoi on est encore là ? On
continue
quand même, manger jusqu'au bout.
C'est ceux qui ont pas de cartouche.
Ouais, c'est ça.
Ah, ça décharge, je vais peut-être le revoir ce film pour voir s'il est vraiment si nul que ce dont je me rappelle ou s'il faut le réhabiliter.
C'est américain ?
Ouais, il est passé il y a pas longtemps en plus.
Parce que moi je regarde pas ni Stranger Than Paradise, ni Invasion.
Ça a peut-être un petit côté aussi tu vois, de défi. Non, moi je reste.
Ouais, moi je reste.
Moi je dirais jusqu'au bout.
Je suis
et
un
toi,
bonhomme.
Toi tu restes jusqu'au bout.
Mais en vrai, un film qui m'ennuie, ça me dérange moins qu'un film qui m'énerve. Parce que la seule fois où j'ai voulu sortir de la salle au cinéma, c'était pour Le Magasin des Suicides.
Ah, qui avait l'air tellement bien. Le film d'animation, là.
Oui, oui.
Ouais.
Et en fait, tous les acteurs chantaient faux.
Ah.
Et c'était nul. J'avais mal aux oreilles. J'étais en souffrance physique. Je suis pas sortie, mais c'est la seule fois vraiment où j'avais... L'envie de sortir était plus forte que l'envie de rester.
C'est ouf.
Et de voir la fin du film. Donc bon.
Il avait l'air tellement bien ce film.
Bah, tu
Non, non,
regarde-le.
Mais non, non, bah, plusieurs fois conseillé de ne pas le faire. Mais...
Après, c'est peut-être moi qui.
Ou prendre la BD, peut-être.
Plusieurs fois. De... Ou le roman, c'est un roman à la base.
Ah, je sais plus. Je crois que c'est un roman, BD, BD, roman.
Je sais pas.
Bon, il y a du papier en format papier en tout cas.
Voilà, il est sur du papier.
Voilà.
Renseignez-vous.
Et ben voilà pour l'ennui.
Non, mais attends, il y a peut-être encore des choses à dire.
En fait, je voulais juste ajouter, enfin, revenir sur le Paranormal Activity de.
Vas-y, vas-y, infligez-nous ça, vas-y.
Je voulais conseiller aux éditeurs de regarder le Chroma sur Paranormal Activity, ouais. Il est très drôle.
Regardez Rec, hein, dans le même genre,
ils
fun footage.
Ils ont fait une parodie qui est à mourir de rire de, oui. De fun footage.
Si des gens sont à fond sur l'ennui et qui veulent regarder un film. Pour s'ennuyer de ouf. Moi, j'avais vu au cinéma Astrée et Céladon de Romer.
Oh.
Et c'est la seule fois de ma vie que je suis sortie d'un cinéma. Pas très longtemps après le début du film. J'ai tenu 35 minutes peut-être. Et en fait, il durait 3 heures ou 4 heures. Comme... Enfin, 3 heures, allez, comme tous les films de Romer. Et voilà, une histoire de merde, des acteurs de merde. Une histoire de merde, je l'ai déjà dit peut-être.
Dis-le.
Tout était pourri, tout était nul. Il y a un moment, il y a un mec qui se déguise en fille, mais c'est grillé à 200 milliards de kilomètres que c'est un mec, et toutes les meufs font genre comme si c'était du fille. Enfin, c'est un scandale de merdicité. Personne ne sait parler dans ce film. Enfin, tu sais, il parle un français, je sais pas, ancestral. Enfin, personne ne parle comme ça. Voilà. Mm. Bon, tout m'a énervé, et c'est vraiment de la merde. Donc, si vous le regardez.
Sire, je suis votre éternel abonné.
Merci pour cet avis partagé et équilibré.
Voilà.
Bon, en tout cas, c'est l'épisode du bâchage. Hein.
Ah oui, oui, carrément. Là.
J'espère que vous êtes contents.
Non, Romer,
mettre là.
Romer, sa nouvelle vague. Non, je sais.
Romer, c'est la vague Romer à lui tout seul. En fait, c'est tout ce qu'il fait, c'est affreux. Regardez sur YouTube Perceval le gros
Gaulois.
Bâtard.
Dans le Gallois ou le
Gaulois le Gallois.
Perceval le gros bâtard, je connais pas ce film. Je trouve pas sur
une
BD, c'est
ça.
Avec Lucini, il n'y a pas de décor. Il y a des chœurs comme genre en Grèce antique. Il y a des chœurs qui chantent l'histoire.
Mais en fait, tu peux essayer des trucs, mais si ça.
C'est du jamais vu, quoi. Mais personne n'a jamais refait ça. C'est du jamais vu. C'est franchement. Tu veux tuer quelqu'un avec de l'ennui,
attends,
tu fais ça.
On est en train de perdre nos auditeurs, nos auditeurs cinéphiles. Parce que si t'as fait une école de cinéma, t'as subi la nouvelle vague. Et tu as des ennemis très précis.
Ah merde.
Mais.
Non mais Romer, c'est tout le monde est contre. C'est pas possible.
Je sais pas. Je crois pas. Hein. Je crois qu'il y a des gens qui aiment vraiment ce qu'ils font.
Si vous êtes dans ce cas-là, ne vous désabonnez pas, s'il vous plaît.
Restez, on sera pas toujours en train de bâcher la nouvelle vague. On devrait essayer de faire un épisode nouvelle vague où on aime chacun un film de la nouvelle vague.
C'est une super idée, ça. Chroniquer un film.
Attends. Ça veut dire qu'il va falloir que je regarde un film de nouvelle vague ?
Eh ouais !
C'est mort.
Bon, on fera pas ça cette année, par contre.
On peut chercher des gens qui ont aimé les films qu'on vient de bâcher.
Alors,
faire
si
un équilibre dans la force.
Vous connaissez quelqu'un qui a aimé un des films que nous avons bâché ou surtout un film de la nouvelle vague. Si vous connaissez cet espace rarissime,
contactez-nous.
N'hésitez pas à nous envoyer un petit commentaire, hein, que nous soyons rassurés ou pas d'ailleurs.
De sa santé mentale.
Pardon ?
Sur sa santé mentale.
De ses goûts. Non,
il faut de tout pour faire un monde.
Oui, je confirme.
Et nous allons ainsi conclure cette chronique sur l'ennui, qui, j'espère, vous aura intéressé.
Qu'est-ce qu'on s'est fait chier ?
Sac !
Allez, c'est peut-être l'épisode le plus chiant de la saison. Bye bye !
Bye !